En fait, ce matin, je vais aborder le thème du légalisme. Et ce que j'entends par légalisme, en fait, c'est tout ce qui fait obstruction à la vérité. Et ce matin, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites pendant la louange. Et ça donne même l'impression, en fait, qu'on aurait pu rester pendant ce temps de louange. Moi, j'étais là dans l'auditoire et je bouillonnais, je dansais, j'avais envie de... Mon cœur explosait par rapport à tout ce que j'entendais. Quand on parle d'être le cœur à nu devant Dieu, quand on parle du trône de grâce, mais ce matin, moi, je pleurais quand j'entendais ces mots-là parce qu'on a besoin de se rappeler d'être ces cœurs qui sont perméables à la parole de Dieu et à la grâce de Dieu pour nos vies. Et j'hésitais, en fait, ce matin, j'avais deux thèmes à cœur et j'hésitais beaucoup à partager ce thème. Et en fait, samedi matin, je me suis réveillée avec cette phrase-là, c'est « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Et en fait, ce moment de louange, tout ce qui a été dit, ce qui a été prophétisé, c'est ce que j'imaginais pour ce matin. Et j'avais l'impression que c'était assez, en fait. Mais Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les chants qui sont chantés viennent de la parole de Dieu. Et ce matin, on va continuer dans le même sens. On va parler de la parole de Dieu pour entrer pleinement dans cette grâce. Et en fait... c'est important de se remettre aussi, de se rappeler les cultes qui ont déjà eu lieu et de se rappeler combien de fois Dieu a déjà parlé par rapport à ce qu'on est en train de vivre ce matin. Et tout commence, enfin, pour moi, où Dieu met un warning par rapport au légalisme et par rapport à ce qui fait obstruction à la puissance de la vérité. Au mois d'août, j'étais à Waterloo, je prêchais à Waterloo, et pendant le temps de louange, on a vécu un moment très fort dans la louange, comme ce matin. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps de louange, Dieu a parlé et il a dit ceci. Il a dit, jusqu'à quand vous viendrez dans ma présence avec autre chose que mon sang? Sous-entendu, jusqu'à quand on va entrer dans la présence de Dieu en mettant entre Dieu et nous toutes nos œuvres, tout ce qu'on pense, nos idéologies, nos idées. Et on en oublie de venir comme ce matin et de venir avec un cœur nu devant Dieu, dans le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous affermit. Ensuite, il y a eu le j'aime où Esteban a parlé et disait « Dieu me demande de dire aux églises, donc à l'église avec un grand E, de prêcher sur le légalisme et de parler sur la puissance de la grâce et la puissance de la vérité. » Et vous savez, quand Esteban a parlé de ça, moi j'étais contrite dans mon corps. Et j'ai l'impression d'avoir l'appétit coupé. Je me disais, mais Dieu a parlé là, Dieu parle à ce moment-là, il parle de ça. Et parfois, il faut savoir s'arrêter sur les moments où Dieu répète les choses. Parce que s'il répète les choses, c'est parce qu'il veut nous amener bien plus loin où on est aujourd'hui. Même si on peut être satisfait de nos vies chrétiennes, de l'œuvre de l'Église, il y a plus encore. Et quand je cherchais des choses sur le légalisme, le même jour sur le Top Chrétien, il y avait la parole du jour, et c'est la parole du jour de Joss Meyer, et le titre c'était « Les traditions et les coutumes qui nous tuent ». Le même jour. Et je sais aussi, pour en avoir parlé avec une copine, que Fred, tu en as parlé aussi lors d'une étude biblique dernièrement, tu as parlé du légalisme. Et moi, quand j'entends tout ça, quand je vois tout ça, quand je vois à quel point Dieu veut nous affermir sur notre identité, veut nous affermir sur la consolation que nous avons en Christ, sur la grâce que nous avons en Christ, bah là, j'ai toutes mes antennes qui sont complètement levées. Et là, je me dis, il faut capter ce que Dieu est en train de dire et ce que Dieu veut faire pour l'Église. Et le légalisme, donc tout ce qui fait obstruction à la vérité, c'est finalement qu'un iceberg, en fait. Et il y a plein de choses qui sont cachées. Et donc, on va voir, en fait, ensemble, ce que j'entends par légalisme, mais aussi ce qui est les choses cachées, ce qui est caché en dessous de cet iceberg. « Sachant que ce matin, je suis consciente que je vais parler à plusieurs personnes. Que certaines personnes, Dieu vous a déjà parlé et Dieu vous a déjà montré que vous avez pu tomber sous le légalisme. Et le but de ma prédication, ce n'est pas de vous blesser, de vous vexer. Pour certains, vous pourrez utiliser ma prédication sur le légalisme en mettant une justification au laxisme, le fait de rester dans le péché, et ce ne sera pas du tout ça, et ce n'est pas du tout le but de mon message ce matin. Et pour d'autres, vous êtes dans la souffrance de supporter le légalisme et de supporter peut-être aussi le laxisme de certains. Donc je suis consciente qu'il y a trois types de personnes ce matin. Ceux qui sont dans le légalisme, ceux qui sont dans le laxisme et ceux qui souffrent des deux, de voir le laxisme et de voir le légalisme. Ça fait beaucoup. Et ce matin, mon but, ce n'est vraiment pas de justifier un comportement ou un autre, mais c'est de prêcher pour la cause de Christ, la vérité pour la cause de Christ et pour rien d'autre. Amen. Donc, le légalisme, qu'est-ce que j'entends ce matin par légalisme ? Ce que j'entends par légalisme ce matin, c'est le fait de vouloir se justifier absolument par les œuvres et absolument par la chair. D'aller devant Dieu et de quelque part faire cette même prière que le pharisien a fait. Tu vois, Seigneur, moi je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme le reste de ces personnes. Je jeûne deux fois par semaine, je fais ça pour Dieu. Mais ce matin, Dieu nous dit, moi, je sais ce que tu fais pour moi, mais j'ai pas besoin que tu le mettes tout le temps devant ma face. Moi, je veux ton cœur à nu. Et ce matin, c'est ça que je vise. Je vise le fait qu'on utilise des choses de la loi pour justifier des pensées et des idéologies et qui n'ont pas été reprises par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et je vise aussi tout acte, toute tradition, toute habitude, toute coutume qu'on va hisser au même rang que la vérité et au même rang que la justification par la foi. C'est-à-dire qu'au lieu de s'approcher devant Dieu et de dire « je suis justifié par la foi que j'ai en Jésus-Christ », parfois on s'approche de Dieu et on dit « j'ai fait tout ça pour toi, regarde mes habitudes, mes coutumes, mes traditions » et on pense que c'est ça qui nous sauve. Et on s'en rend même pas compte, on met ces choses-là au même rang que le sacrifice de Jésus à la croix. Donc voilà tout ce que j'entends par le légalisme. Et donc, forcément, une question s'est posée quand, dans le Nouveau Testament, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, quand il y a eu la propagation de l'Évangile, des questions se sont posées de savoir qu'est-ce qu'on devait faire par rapport à la loi et comment on devait être par rapport à la grâce. Et Paul, il va être confronté à cette question. Il va être confronté quand il sera dans l'église aux Romains, et on voit dans le livre aux Romains, il doit répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait de la loi ? Aux Galates, et je vous invite à lire chez vous le livre de Galates, mais c'est formidable. Moi, je me rappelle, j'en parlais à Claude, j'en parlais à ma mère, j'étais là, et j'avais ma mère au téléphone, je disais, mais maman, quand tu vois Galates, comment Paul, il écrit, tout est parfait, tout est équilibré. Et je vous invite vraiment à relire ce livre-là chez vous. Et donc, Paul, il va devoir répondre à cette question, est-ce qu'on est sous la loi ? Et qu'est-ce qu'on fait de la loi ? Et Paul dira aux Romains, donc chapitre 3, verset 19, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc ce matin, si vous posez la question de savoir ce que vous devez faire par rapport à la loi ou la grâce, vous êtes sous la grâce. La loi est pour ceux qui sont sous la loi. Et la question se posait aussi, c'était de savoir, ben, finalement, est-ce qu'on avait le droit de prendre certaines choses de la loi et d'aller les mettre avec la grâce et finalement faire notre cocktail à nous, qui nous va bien, un coup de loi quand ça nous arrange et un coup de grâce quand ça nous arrange. Et nous, on fait notre propre équilibre dans nos vies. On se dit, ben, là, on va prendre ça parce que comme ça, j'arriverai à tel but dans ma vie, ou alors je vais mettre un coup de grâce. Et là, c'est pareil, Paul, il est très clair aux Galates. Aux Galates, chapitre 5, verset 3. Et là, Paul était heurté à la question de la circoncision. La question se posait pour les hommes, est-ce qu'ils devaient toujours être circoncis sous la grâce ? Parce que c'était quelque chose de la loi qui avait été perpétué. Et même avant la loi, Abraham, en fait, devait circoncire, son fils. Et donc la question se pose. Sous la grâce, qu'est-ce qu'on fait ? Les mecs, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous circoncire ou pas ? Et la question est normale, parce que parfois on se pose des questions. On voit tout l'Ancien Testament avec la loi, et on voit toute la grâce, et qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc Galates, chapitre 5, verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Si tu veux appliquer une chose de la loi qui n'a pas été répétée, renforcée et élevée par les préceptes de Jésus, et là je vous invite à lire le livre de Matthieu et notamment chapitre 5 où Jésus y trace, il dit « Voilà, la loi a dit ça, vous avez appris ça et moi je vous dis faites ça ». On a appris œil pour œil, moi je vous dis de bénir vos ennemis. Il y a des choses que Jésus va renforcer, va élever. Mais il y a des choses où Jésus n'en parle plus du tout dans le Nouveau Testament. Et nous, on n'a pas le droit, Paul le dit, on n'a pas le droit de prendre des choses de la loi que Jésus n'a pas rappelées dans le Nouveau Testament et de faire notre cocktail qui nous va bien à nous. Parce que si on prend quelque chose de la loi qui n'est pas répété par Jésus-Christ, dans ce cas-là, Paul nous dit, reva complètement sous la loi. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas être sous les deux. La loi, c'est la condamnation. C'est ce qui nous révèle notre statut de pécheur. La grâce, la rédemption salvatrice pour nos vies, pour notre âme. La grâce qui nous fait courir bien plus loin que la loi. Et forcément, je me suis amenée à me poser cette question en disant « Pourquoi est-ce qu'on fait ce cocktail, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on mélange la loi, la grâce ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans... On n'arrive pas à s'y retrouver entre la loi, ce qui a été ordonné au peuple d'Israël et ce que Jésus va venir dire dans le Nouveau Testament ?» Et je pense que la première chose... C'est cette ambiguïté et donc ce légalisme qu'on voit et qui est quelque part que le haut de l'iceberg dans l'Église avec un grand E, c'est l'incompréhension de la déclaration de Jésus. Et on va l'afficher, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et Jésus dit cela, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir ». Et là, forcément, il y a une ambiguïté qui se pose. Parce qu'on se dit, Jésus, il est venu accomplir la loi. Et donc, dans le mot accomplir, parfois, on pense que ça veut dire qu'il est venu faire subsister, continuer, perdurer la loi pour nos vies. Mais le mot accomplir, accomplir la loi, Jésus a accompli la loi dans le sacrifice à la croix. Quand Jésus dit « j'ai tout accompli », il a accompli la loi. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. La loi, c'était pour montrer la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, que nul homme sur terre n'est capable d'accomplir. Il n'y a aucun juif dans le peuple d'Israël sous la loi n'a jamais réussi à accomplir tous les préceptes sous la loi. Alors pourquoi nous, on y arriverait ? Parce qu'on est sous la grâce. Mais la grâce ne nous permet pas d'accomplir toute la loi. Jésus-Christ seul, sacrifice parfait, a réussi en lui seul, à accomplir la loi, toute la loi, tous les préceptes, tout ce que la loi disait, il y a je ne sais combien d'ordonnances, tout a été accompli dans le sacrifice de Jésus. Lui, il est le sacrifice parfait qui a accompli la loi. Amen. Et Paul, il avait saisi ça parfois. On prend les Écritures, on a l'impression qu'il y a plein d'oppositions entre les Écritures. Mais c'est parce qu'on ne prend pas, excusez-moi, le temps de reprendre les versets et de décortiquer. Parfois, la Bible mérite d'être décortiquée comme on est capable de décortiquer nos bouquins, nos livres de chevet. On a besoin de décortiquer la Bible et de comprendre. Et il n'y a pas autant d'opposition qu'on le croit. Il y a autant d'opposition parce qu'on tire les passages de leur contexte et on en fait notre melting pot à nous, notre cocktail. Et Paul, on va prendre Éphésiens chapitre 2, verset 15. Et il explique ce que ça veut dire, le fait que Jésus est venu accomplir la loi. Et Paul, il nous trache pas la déclaration de Jésus. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 15. Donc il parle de Jésus. Jésus ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et là je vais pousser encore la réflexion quand il dit ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est pour ça que la loi demeure dans la Bible, où on a l'Ancien Testament, où on a la lettre, on a ce que la loi est, on a les écrits. Parce que forcément, quand on voit ça, quand on voit que Jésus a tout accompli, qu'il est le sacrifice parfait, qu'il a accompli la loi, qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, on se dit, mais à quoi ça sert en fait l'Ancien Testament ? À quoi elle sert la loi ? Franchement, est-ce qu'on ne devrait pas arracher nos pages ? Ah, je pose la question. À quoi ça sert ? Puisqu'il a anéanti par sa chair, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'avoir la loi ? Et Paul, donc non seulement il affirme que Jésus a anéanti par sa chair les prescriptions, les ordonnances de la loi, mais Paul dira que la loi était l'ombre des choses à venir. Les choses à venir sont bien plus belles que l'ombre. Une ombre reste une ombre. Mais quand on voit après notre ombre, par exemple, si l'ombre me suit, on ne voit pas tous les détails. Par contre, en Jésus, il y a tous les détails de la grâce, tous les détails de la perfection, tous les détails de la sainteté. Une ombre reste une ombre. Mais Jésus-Christ, en lui, sa sainteté, sa pureté, son amour, sa miséricorde, sa compassion, en Jésus-Christ, on a tous les détails. Parce que la loi était l'ombre des choses à venir. Dans Galates, il dira, la loi est un pédagogue. La loi est un pédagogue nous amenant à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie un pédagogue ? Un bon enseignant, un bon pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui sait faire aller une personne d'un point A à un point B. Donc, la loi nous fait faire aller d'un point A à un point B. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi le point A ? Paul dira que la loi, en fait, c'est par la loi, la connaissance du péché vient. La loi parle à nos consciences et les écrits parlent à notre conscience. Mais tu peux toujours voir les écrits et rester au stade de condamnation où la loi te parle, les préceptes de Jésus dans le Nouveau Testament te parlent, mais tu restes à l'état, ça me parle, ça parle à ma conscience. Mais après, le pédagogue, c'est de me faire aller au point B. Et tous les préceptes, toutes les ordonnances qui ont été appliquées, c'était pour le peuple d'Israël de se couvrir de leurs péchés. Ça les amenait à quelque chose. Mais ce qui est fabuleux, en fait, pour nous en Jésus-Christ, c'est que notre point B, c'est non plus seulement de couvrir nos péchés par nos prières, mais c'est que le péché peut être ôté de nos vies. Et Paul dira même que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est le point B pour nos vies. Et le point B, c'est par Jésus-Christ seul. Ce n'est pas au travers d'applications de lois, d'ordonnances, de gestes, de coutumes ou de traditions. Franchement, entre le sacrifice de Jésus à la croix, qu'un seul homme était capable de faire, nos traditions, nos coutumes, nos lois, nos mélanges, ça ne vaut pas devant Dieu. Ça ne vaut pas. Ça n'aura jamais le même effet parce que c'est Jésus-Christ seul qui a accompli le sacrifice pour nos vies. Et oui, la loi était l'ombre des choses à venir. La loi est un pédagogue pour nos vies. Par la loi, j'ai par les préceptes, j'ai conscience de l'état de pécheur que je suis. Mais ce n'est pas pour rester à cet état-là. C'est pour être justifié, racheté, pour être débarrassé des péchés, pour avoir la domination sur les péchés. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est ce que Jésus a accompli à la croix pour nos vies. Et comme je vous disais, donc la première chose, donc c'est cette ambiguïté par rapport à la déclaration de Jésus. Et ensuite, parfois on fait l'erreur aussi de le légalisme, les traditions, les coutumes, les actes qu'on va hisser au même rang que la vérité. En fait, on s'en rend même pas compte, mais c'est une instrumentalisation pour nourrir des choses qui nous sont personnelles. Parfois, on a envie d'avoir un but, on a des rêves, on a des envies pour l'Église, pour nos vies. Et parfois, en fait, on va utiliser ces traditions, ces coutumes pour arriver à ce but. Et on en oublie, en fait, que Jésus, lui, quand il prêchait, quand il parlait, en fait, il n'en avait rien à faire du nombre de personnes qu'il suivait. Il allait même pas dire qui guérissait. Il disait aux gens, ne dites même pas, n'allez pas dire que je vous ai guéri. Tout ça, il s'en foutait, Jésus. Et lui, les gens le suivaient par l'onction, par l'amour qu'il dégageait. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Jésus, il n'avait pas besoin de manipuler, il n'avait pas besoin de tordre le sens des mots, de tordre la Bible pour amener des gens à sa cause. Paul parlera d'esprit de parti, et parfois on ne s'en rend même pas compte, mais on agit avec un esprit de parti, on nourrit un esprit de parti pour arriver à un rêve, pour arriver à un but. On instrumentalise la parole de Dieu, on instrumentalise les versets qui nous sont donnés pour arriver à ce but-là. Et on ne cherche plus à arriver à ce but-là avec l'aide de Christ, mais par nos propres forces. Et parfois même, ça va loin parce qu'en fait, on va dire, fais ça avec moi et fais ça pour moi et tu verras, tu seras béni. Et là, on commence à quelque part à soudoyer les gens. On commence à dire, mais fais ça, tu seras béni. Mais quand est-ce qu'on va se parler les uns aux autres? On va dire, faisons ça ensemble pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. On dit toujours pour la bénédiction de Dieu. Comme si on devait acheter la bénédiction de Dieu. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce? Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Et je lisais dernièrement, enfin hier, parce que forcément, comme je suis... dans le milieu du droit, je m'intéressais un peu au personnage du procureur de la République. Et parce que je trouve que quand il parle, on voit qu'il est pas forcément à l'aise devant les caméras. Il a certains tics, certains gestes avec son corps. En fait, on voit qu'il sait pas son truc d'être devant les projecteurs. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu ce que les gens disent de sa vie. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marquée. Enfin, c'est des paroles qui sont rapportées, donc après, est-ce que tout est vrai, je ne sais pas, mais il y a une personne quand même qui publiquement dira que quand cette personne m'appelle pour me réveiller la nuit, pour aller bosser sur un lieu de crime, etc., je me lève parce que j'ai envie de bosser avec lui, parce que j'ai envie de travailler avec lui, parce que c'est un homme humble, parce que c'est un homme qui a du respect. Parfois, on cherche à être suivi, mais avec autre chose que l'amour, la grâce, la douceur et l'humilité. Et Paul, aux Galates, il dénoncera aussi l'esprit de domination et de contrôle. Et le légalisme nourrit toute envie de contrôle. Ça nous aide à mettre notre main sur les gens et à contrôler et à dominer. Jésus, lui, il n'a jamais besoin de dominer ou de contrôler quelqu'un. T'avais envie de le suivre, tu le suivais. T'avais pas envie, tu le suivais pas. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble? Pour avoir une bénédiction de Dieu ou parce qu'on s'aime? Parce qu'on est le corps de Christ? Est-ce que quand Alex va me dire « Viens faire ça avec moi, je vais me lever pour une pseudo-bénédiction » ou est-ce que je vais me lever parce que je dis « Oui, on y va ensemble, oui, pour l'amour que nous portons les uns pour les autres. » Quand Antonia, elle a intercession, quand on fait l'intercession, pourquoi on y va? On y va pour faire notre béa? Pour prier? Pour avoir une bénédiction? Ou on y va parce qu'on veut répandre nos tripes? Parce qu'on veut répandre la compassion, les larmes, les cris de l'intercesseur qui s'élève devant l'Éternel pour la vie d'autrui? Et donc, par rapport à la domination, on va prendre Galates 6, versets 11 à 13. Et donc là, comme je vous le disais, Galates, c'est toujours par rapport à la circoncision. Et en fait, il dénoue en fait ce qui se passe par rapport au fait de vouloir imposer la circoncision. Donc, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Et parfois, on cherche la gloire, les honneurs au travers des autres. On veut que les gens fassent comme nous, parce que ça nous arrange et ça nous écurise que tout le monde fasse comme nous. On fait la même chose. Faut faire lire autant de chapitres, faire les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Mais c'est pas ça l'œuvre de Christ, c'est pas ça l'œuvre pour l'Église. Dieu, il demande pas à ce qu'on soit tous des copies conformes des uns des autres. La copie conforme, c'est par rapport à Jésus-Christ. C'est dans la grâce, l'amour, la miséricorde. Et on ne doit jamais chercher au moyen de gestes, de coutumes, de traditions, de la loi, que tout le monde applique la même chose. Puis comme ça, on dit, bah regarde, ils font tous comme moi. C'est cool. C'est bien. Franchement, c'est bien quand on voit plein de monde faire comme nous. Maintenant, je mets un bémol. Ça veut pas dire, et je suis pas en train, comme je disais tout à l'heure, de prêcher le laxisme et l'anarchie dans l'Église. Comprenez bien où je veux en venir. Je mets en relief ce qui est en dessous de l'iceberg. La domination, le contrôle. Parfois, on s'en rend même pas compte. La manipulation. Au lieu de l'amour. Et l'amour disparaît. Et Paul, on peut mettre la suite. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul se glorifiait d'une chose, de la croix de Jésus-Christ dans sa vie et de toutes les œuvres qui étaient générées et engendrées par la croix de Jésus-Christ. Je prêche pas la stérilité ce matin, la paresse ou quoi que ce soit, mais que nos œuvres, que tout ce que nous faisons pour l'Église soit tout simplement par rapport à la croix de Jésus-Christ dans nos vies et pas renverser le cycle. On fait les œuvres, donc en fait ça nous donne le salut, ça nous donne la justification et on tombe dans l'ultra-spiritualité. Mais non, la croix de Christ qui va engendrer des œuvres et des œuvres, le zèle, le feu... C'est ça qui doit nous faire courir, l'amour pour nos frères et sœurs. Si Chanel m'appelle une nuit, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais dire, oui, faisons ça ensemble? Est-ce que je vais le faire juste pour l'amour? Ou est-ce que je vais le faire pour autre chose que la croix de Christ dans nos vies? Pourquoi? Pourquoi je ferai quelque chose avec Antonia? Pourquoi je ferai quelque chose avec Fred, avec Paul, avec Sandy? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi? Pour acheter une bénédiction? Dieu a déjà tout donné, tout est accompli. Ou est-ce qu'on est là pour l'amour entre nous? Quelque chose qui est aussi en dessous de l'iceberg, c'est l'insécurité. L'insécurité émotionnelle, l'insécurité financière, on a peur. On a peur de ne pas être suivi, on a peur de ne pas être aimé, on a peur... Peut-être aussi d'être différent, en fait, que ce qu'on peut voir dans toutes les églises. Ça fait peur de pas d'être à contre-courant, même sur ça, en fait. Ça fait peur financièrement. Quand tu dois tout lâcher pour le ministère, ça fait peur. Ça fait peur de plus avoir ton salaire qui tombe tous les mois. Ça fait peur et je le comprends. Mais là aussi... Les offrandes qui sont faites le matin, c'est pour l'amour du corps de Christ. C'est pas pour acheter une quelconque bénédiction. C'est pour l'amour entre nous, pour supporter les ministères, pour porter les ministères, pour porter l'œuvre. Et parfois, j'entends des paroles où on pense en fait que quand on regarde la vie de Jésus et de ses disciples, c'est vachement dur. Et je loue Dieu pour les hommes et les femmes qui osent quitter leur travail quand Dieu dit « Maintenant, tu viens complètement à moi et tu abandonnes tout. » Ça coûte tout pour l'homme, ça coûte tout pour la femme, ça coûte tout. Et Jésus le sait, il l'a fait. Ses disciples l'ont fait, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné. Mais tout abandonner ne veut pas dire qu'en retour, tu auras une vie bien plus riche matériellement et bien plus riche dans tes dépenses et dans tes comptes que ce que tu avais auparavant. Dieu ne te promet pas cela. Il te bénira, il pourvoira à tes besoins, mais il ne te dit pas que tu auras la même vie en abondance que peut-être tu avais au travers de ton travail, peut-être que tu avais au travers de tout ce que tu faisais et qui te rapportait de l'argent. Il ne te promet pas cette vie-là. Ce qu'il te promet, c'est qu'il pourvoira à tes besoins jour après jour. Ça, il te le promet. Mais il ne te promet pas des « en veux-tu, en voilà », des trucs super comme tout le monde a dans le monde. Ce n'est pas ça, la vie avec Christ. Et encore une fois, je ne suis pas là et je ne veux pas qu'on utilise mes mots pour autre chose que je suis en train de dire. Moi, je travaille, mon mari travaille, on est beaucoup à travailler dans l'Église. Certains, on le sait, Dieu est en train de les appeler à quitter leur boulot et à rentrer dans des ministères. Donc, ne me prêtez pas à mes mots ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de prêcher le travail. Ben, pour ceux qui doivent y rester, on y reste et on continue. Mais n'attendons pas de Dieu une vie qu'il ne veut pas nous donner dans le ministère, dans nos appels respectifs. Parfois aussi, et la prophétie de ce matin, j'ai beaucoup aimé, parce que quand on a l'incompréhension de la grâce, franchement, la grâce, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de hauteur, elle n'a pas, enfin, la profondeur de la grâce. Moi, ce matin, je pleurais quand j'étais là et je me... Vous savez, parfois, en fait, on a besoin d'être comme des petits-enfants, en fait, devant Dieu. De prendre la parole et de... Moi, parfois, je prends la parole, mais je pleure, je me prosterne devant la parole. J'ai envie d'être comme une enfant devant l'Éternel. Quand j'entendais ce matin le mot « grâce » et le cœur à nu, je disais à Dieu, mais ouais, je viens devant toi comme un enfant. Cette grâce qui, au-delà de tous nos raisonnements, au-delà de toute intelligence, au-delà de tout, de toutes nos forces, c'est au-delà de tout, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de limite. Il n'y a rien qui peut contenir la grâce de Dieu dans le monde. Et la grâce de Dieu, elle n'est pas comparable à notre gentillesse à nous. Et c'est ça, parfois on a du mal. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste Dieu est gentil. La grâce de Dieu, c'est au-delà de la gentillesse. Ça va au-delà. La grâce de Dieu nous sauve, nous délivre. Et parfois, on reste dans cette culpabilité, dans ces condamnations. Et ce matin, la prophétie qui a été annoncée, clairement, Dieu dit, mais tu te condamnes. Et je cherchais le passage biblique qui supporte la prophétie. C'est Proverbe 24, verset 16. Et c'est dit, le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il se relève. Ça, c'est la grâce de Dieu. La prophétie de ce matin, tout ce qui a été annoncé, c'est la grâce de Dieu, incommensurable. C'est la grâce de Dieu pour nos âmes, pour nos vies, où on a des échecs, où on a des épreuves, où on a besoin d'être consolé. Combien de prédications il y a eu sur la consolation depuis des mois et des mois. Il y a eu la consolation. Et Dieu veut consoler encore ce matin. Dieu veut panser les plaies ce matin au travers de sa grâce. Et vous savez, non seulement, donc là j'ai posé le cadre de la définition, j'ai posé les sous, enfin, ce qui est en dessous de l'iceberg, mais là maintenant je vais voir les conséquences de ce légalisme, de ces actions, de ces traditions, de ces coutumes. Et Paul donc dira dans Galates chapitre 3 verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Sous la malédiction. Ensuite, on va prendre Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. À chaque fois que nous hissons dans nos vies des coutumes, des traditions, aussi bonnes soient-elles, mais quand on les met au rang de la vérité, quand on les met au rang de Jésus-Christ, tu es séparé de la grâce de Christ. Tu es séparé de Jésus-Christ. On se fait malédiction. Malédiction pour nous-mêmes et malédiction les uns pour les autres. Alors vous me direz, on vit des miracles, on vit des prodiges, on vit déjà de belles choses, franchement, entre nous. Quand on entend les guérisons de la dernière fois, c'est bien. C'est cool. Franchement, on vit des belles choses. Il y a les baptêmes du Saint-Esprit, il y a les dons, les prophéties. Mais vous ne croyez pas qu'il y a encore plus sous la grâce de Dieu qu'on ce qu'on vit? Vous ne croyez pas qu'il y a encore plus? Encore plus, encore plus de prophéties, encore plus de guérisons, encore plus de miracles, encore plus de prodiges, sous la base de la grâce, pas sous la base de nos traditions, de nos coutumes, de nos actes, mais sous la base de la grâce. La grâce, par la grâce, nous pouvons nous consoler les uns les autres, par la grâce, nous pouvons nous bénir les uns les autres, par la grâce, c'est par grâce que Dieu sauve, c'est par grâce que Dieu guérit, c'est par grâce les miracles, les prodiges, les prophéties. C'est par grâce, c'est sur la base de la grâce de Jésus-Christ seul. Et quand je disais la malédiction et qu'on est séparé de la grâce pour nous et pour autrui, c'est parce qu'on ne se rend même pas compte des dégâts, en fait, que le légalisme, les coutumes, les traditions, les actes, les mélanges, les conséquences que ça a pour nos vies, mais pour ceux aussi qui nous entourent. Et vous savez, quand je préparais ce message-là, j'avais une image très forte. Et en fait, je voyais un plat rempli de cailloux. Le truc, c'est que vous avez déjà essayé de manger des cailloux dans nos bouches. On ne sait même pas les manger, ça ne peut même pas aller là. On recrache tout de suite. On vomit, mais on ne mange pas. Résultat, on ne mange pas. Et Jésus-Christ, dans la Bible, est comparé à du miel dans nos bouches. Alors, je ne sais pas si tout le monde aime bien le miel dans l'Église, mais vous avez déjà eu du miel dans la bouche. Du miel, une cuillère de miel dans la bouche. À quel point c'est consistant, à quel point c'est doux, mais à quel point ça fortifie. À un moment donné, Claude m'a acheté des petits biscuits au miel, c'était des trucs bio au miel, mais on en mange un, on est calé pour la journée. Et parfois, on va manger plein d'autres marques où c'est un peu plein d'autres bonbons, chocolat, etc. Mais en fait, on mange tout le paquet parce que de toute façon, ça ne nous nourrit pas, en fait. On peut en manger autant qu'on veut, on a toujours faim. Et par contre, du miel, le miel dans nos bouches, le miel entre nous, le miel dans nos bouches, les uns envers les autres. Ça nourrit le peuple. Ça fortifie le peuple. Ça nous permet d'aller loin. Par contre, des cailloux dans nos bouches, on les mange pas, on les vomit, on n'a pas de force, on est faible et on tombe. Et nous sommes tous appelés à nous mener les uns les autres. Je crois que c'est David qui parlera de ça, notamment pour les pasteurs, pour les anciens, d'amener le troupeau dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Et les verts pâturages, encore une fois, je ne suis pas là en train de parler de laxisme et de péché, ou pour certains, ce serait les verts pâturages. Les verts pâturages pour notre âme. La vérité, Jésus-Christ qui est du miel pour nos bouches. Donc les conséquences, la malédiction d'être séparé de Christ. Et Paul dira aussi aux Galates, et il va loin quand même, Paul. Je comprends que parfois on le prend pour quelqu'un de dur et quelqu'un qui pique en fait. Aux Galates, il dira, aux Galates dépourvus de sens. Faut l'encaisser quand même. Si demain vient Fred, vient me voir, ou mon mari vient me voir en me disant, Elisabeth, sur ce coup-là, franchement, t'étais dépourvue de sens. Ah, ça fait mal quand même, faut l'encaisser. Être dépourvu de sens. Il faut réfléchir à ce qu'on nous dit. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que tout ce qui était prêché, tout ce qui était annoncé, était examiné. Vous avez le droit ce matin de réfléchir à ce que je dis, d'éprouver ce que je dis et de venir me voir si vous avez des interrogations, même si vous êtes contre peut-être ce que je prêche. Vous avez le droit, et c'est notre devoir et notre responsabilité à chacun, de réfléchir, d'examiner, d'éprouver. Maintenant, ça ne veut pas dire de mettre le désordre dans toute l'église, d'interrompre toutes les prédications, etc. Si on était à 10 ou 5, on pourrait le faire. Encore une fois, je ne suis pas en train de prêcher l'anarchie dans l'église. Mais l'intelligence, la réflexion, d'éprouver, d'examiner la parole de Dieu. Et Paul dira aux Galates, vous êtes dépourvus de sens. Vous gobez tout ce qu'on vous dit. Vous ne cherchez même pas dans la Bible. Vous vous éprouvez même pas la parole de Dieu. Vous sondez pas les Écritures. Il dira, vous aviez bien commencé votre course par l'esprit, mais vous la terminez par la chair. Et il parlera de ceux qui sont venus imposer la circoncision. Et il dira, en fait, qu'ils sont venus troubler. Il y a le trouble qui se met dans l'Église quand on parle de traditions, de coutumes, d'habitudes, de lois qui ne sont pas les préceptes que Jésus-Christ a annoncés. Il y a du trouble. Il y a de la frustration. Il y a du trouble. Aux Galates, les Galates, ils étaient éprouvés, ils étaient troublés parce que les gens annonçaient. Il y a du trouble dans l'Église avec un grand E. Et c'est pour cela que Dieu parle autant de fois. Il veut le miel pour l'Église. Il veut la puissance de sa grâce pour l'Église. Il ne veut pas que les gens soient troublés, constamment irrités, frustrés. Il veut de verts pâturages, que nous menions les uns les autres, les pasteurs, les anciens, les leaders, les responsables, les enseignants, quand nous parlons, même autour de nous, dans nos boulots, dans nos universités, comment nous parlons de Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes capables d'emmener ceux qui nous entourent dans ces verts pâturages qui nous sont promis ? Ou est-ce que nous troublons par nos coutumes et nos traditions ? Et ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes, types de personnes. Il y a ceux où vous le savez, où votre conscience vous parle, et vous le savez qu'il y a des choses dans vos vies, vous êtes dans ce légalisme, et vous ne voulez pas abandonner ce légalisme parce que ça vous va bien. Et Dieu, ce matin, vous met face à vos propres responsabilités, face à tout ce qui a été évoqué, sur tout ce qui est en dessous de l'iceberg, et toutes les conséquences. Et Dieu vous demande ce matin, qu'est-ce que tu feras de ton légalisme, de tes habitudes, de tes coutumes, de tes traditions qui troublent ceux qui sont autour de toi, qui troublent, qu'est-ce que tu en feras ? Qu'est-ce qu'on en fera de nos traditions et nos coutumes ? Qu'est-ce qu'on en fera ? Il y a ceux aussi où c'est pas tant des coutumes, des traditions, etc., mais vous n'arrivez pas à accepter l'identité que vous avez dans la grâce de Dieu. Alex, il prêchait l'autre fois sur l'identité. Tous les vêtements que, j'étais pas dans cette prédication-là, mais les vêtements dont Sandy parlait, que nous devons porter, vous n'arrivez pas à les porter parce que vous refusez votre intellect, votre intelligence. Vous refusez d'entrer dans la grâce qui vous est promise, dans la grâce qui vous est accordée. Et ce matin, Dieu, il vous dit d'arrêter de hisser votre intellect, votre intellectualisme au même niveau que sa vérité. Il faut reconnaître ce qui est puissant, ce qui est prodigieux, ce qui est miraculeux pour nos vies. Et hier matin, je parlais avec une jeune fille et elle me disait, mais au fond, quand même, comment on fait pour abandonner les choses anciennes ? Parce que c'est quand même notre histoire, c'est notre passé, c'est notre vécu. Et là, je disais, bah ouais, en fait, la grâce, notre identité en Jésus-Christ, ces choses dont on parle et on est là et on dit, bah oui, je sais, je suis sauvée, je suis justifiée. Mais en fait, on le sait, mais intellectuellement. Et là, je vais en parler, je disais, moi, la grâce, j'avais connaissance de la grâce par rapport au salut. Quand j'ai pris mon baptême, quand Dieu dit « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles », parce qu'on a notre histoire, on a notre historique, on a notre passé. Mais Dieu, lui, dans sa puissance, notre passé, c'est une page blanche. On est plus blanc que la neige. mais c'est des trucs de fou. On les cite, mais c'est des trucs de fou pour notre âme. Et je lui disais, mais c'est quelque chose de fou, de dingue. La grâce, même j'en parlais aussi avec Anthony dernièrement, un chant d'Ilson, c'est le scandale de la grâce. La grâce est un scandale pour le monde. Le scandale, c'est quelque chose de fou. Et j'écoutais une autre chanson, c'est la tempête de grâce. Notre cœur, dans mon cœur ce matin, c'était fou, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. J'ai envie de rire, envie de pleurer, envie de sauter, envie de me courber devant Dieu. J'ai envie de tout faire. C'est un tourbillon de grâce. Et il y a ceux aussi où vous résistez. Et Paul dira à ceux qui ne sont pas tombés sous le légalisme, résistez, résistez fermement, restez fermes dans la grâce. Et priez pour ceux qui sont sous le coup du légalisme. Priez pour que l'Église vive dans la puissance de la grâce, dans les miracles, les prodiges, les œuvres engendrées par la grâce. Un amour entre nous véritable par la grâce. Et Paul finira la lettre aux Galates en disant que la grâce de Dieu accompagne votre esprit. Je trouve que la conclusion est magnifique. Et ce sera ma conclusion. Que la grâce de Dieu accompagne notre esprit. Et le temps de ce matin, pendant la louange, l'adoration, la sainte scène, mais Dieu, il veut nous couvrir de cette grâce dans nos esprits. Cette grâce qui nous inonde, cette grâce qui nous submerge, cette grâce qui nous transforme, cette grâce, on peut dire, Abba Père, je suis ta fille, je suis ton fils. Amen. Amen. Je te laisse présider, conclure.